attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
On m'a pissé sur la gueule. Maintenant ça va chier.
Toi tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con.
Y'a pas de passage côté.
Il me nique mon ozone.
Et salut à tous, bonjour mon cher.
Salut, insérez un nom.
Salut, insérez un nom. Et aujourd'hui, on est là pour une édition spéciale sur Halloween. Et quelle est cette émission? Comment on s'appelle?
On s'appelle Nerd d'Arlère. Alerte.
Alerte. Très bien. Donc, Halloween, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est Halloween?
On mange des bonbons à Halloween.
On mange des bonbons à Halloween. Et on fait des fêtes. Pas cette fois. Parce que...
Non.
On est un petit peu restreint. Mais bon. dans cette émission qui est portée Halloween, on va parler de comédies horrifiques et de films d'horreur. Ainsi que de...
jeux vidéo d'horreur.
Parce que c'est bien, les jeux vidéo d'horreur. Voilà, donc on va vous en présenter et vous en faire découvrir plein, on l'espère, dans cette émission.
Plein.
Un peu quand même.
Vite fait.
Donc, que ce soit pour des films traumatisant une génération, à quoi tu penses quand on dit film traumatisant une génération?
L'exorciste.
Bien joué. L'exorciste ou même les dents de la mer, hein. Ouais.
Trop fort.
Mais si on a pensé à Freddy les griffes de la nuit ou même Scream, on a confondu avec des slashers qui sont en fait des films... Qu'est-ce que c'est les slashers?
Les slashers, c'est des films où il y a les adolescents, ils sont poursuivis par un tueur.
Les adolescents, c'est pas les plus intelligents d'ailleurs, ces adolescents.
Ils finissent tous par mourir. Hein.
Exactement. Et pour les jeux d'horreur alors, qu'est-ce qu'on va nous présenter?
Pour les jeux d'horreur, on va parler de Silent Hill, de Resident Evil et aussi de Alone in the Dark.
Qui a eu une adaptation dont on va parler.
On va parler aussi des adaptations.
Évidemment, par la suite. Pour débuter, on va commencer par une première musique qui se nomme Jojo. Donc, on va vous laisser avec cette musique-là et on vous retrouve après.
Thank you.
Très bien. Nous voici pour la chronique jeux vidéo. En compagnie de mon très cher ami.
Bonsoir, bonsoir.
Insérez un nom.
C'est toujours moi.
Alors, si vous avez grandi dans les années 90 et que vous aimez les jeux vidéo, vous avez sûrement déjà entendu parler de Silent Hill.
Un jeu horreur, évidemment.
Évidemment. Alors, Silent Hill, c'est une série de survival horror. Mais qu'est-ce que c'est un survival horror, insérez un nom.
C'est une très bonne question. Un survival horror, c'est un jeu de combat ou de survie, littéralement d'horreur. On peut citer des exemples.
Bah, du coup, Silent Hill.
Silent Hill, bien joué, merci à tous.
Ainsi que Resident Evil.
Et Resident Evil.
Très bien. Alors, du coup, Silent Hill, c'est un survival horror, enfin une série de survival horror, dont le premier opus est sorti en 1999.
Mais ça fait très longtemps.
Très longtemps, très longtemps.
Ça va.
PlayStation.
Évidemment.
C'est d'ailleurs. Pourquoi évidemment ?
C'est toujours PlayStation, hein.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux survival horror sur la PlayStation. La PlayStation, qui d'ailleurs était très orientée sur les jeux de plateforme colorés comme Crash Bandicoot. Yes, par exemple. À sa sortie, et encore aujourd'hui, la franchise est souvent comparée à Resident Evil, dont nous parlerons juste après. Silent Hill, c'est surtout un brouillard pendant tout le long de l'aventure, ce qui est très pratique pour cacher un manque de budget et de travail sur les décors.
Oui, ça tire à balles réelles en tout cas.
Non, mais sur la PS1, c'était normal.
Affreux.
Alors, c'était surtout aussi de l'horreur avec des monstres. Avec des noms tarabiscotés.
Totalement.
Alors, pour vous situer un petit peu le contexte de l'histoire, quand vous commencez, vous êtes Harry Manson. Et votre fille Cheryl fait des cauchemars à propos d'une ville nommée Silent Hill. Quelle est la bonne idée d'Harry ? Emmener Cheryl dans cette ville.
Évidemment.
On s'est dit, pourquoi pas ? Mais une fois arrivée dans la ville, elle disparaît.
Bah, sinon ce serait pas intéressant.
Après un cauchemar étrange... Sibyl, une policière, vous ramène dans un café où elle vous confie une arme et des médicaments. Mais en sortant du café, une radio s'allume et vous la récupérez. Sauf que pas de bol. Ça, c'est génial. Un monstre surgit de la fenêtre pour vous attaquer. On découvre alors que la radio grésille quand les monstres sont proches.
Oh.
Radio qu'on peut totalement éteindre. Mais moi je ne comprends pas parce que la radio
c'est
là.
C'est quand même fou, c'est le principe. C'est un peu le principe.
Mais c'est ça, en fait elle est là pour te prévenir, pour te dire attention,
attention,
prends ton arme, va y avoir des gens.
Et pas du tout finalement.
Et il y a des gens, ils sont là, non.
Bah je veux les
faire. Je désactiverai cette radio.
Je veux être surpris en fait.
Je veux avoir encore plus peur.
Fais-moi peur.
Oh. Un jeu du chat et de la souris s'installe donc entre Harry et Cheryl, qui finit par le mener jusqu'à l'hôpital, dans lequel il ne faut surtout pas oublier la carte. C'est super important.
Sinon,
le jeu ne te dit pas de prendre la carte. Ça paraît logique.
Ça paraît logique, ouais.
Mais le jeu ne te le dit pas. Et en fait, ce qu'on ne sait pas quand on arrive à l'hôpital, c'est que le sous-sol, c'est un labyrinthe. Donc si tu n'as pas de carte...
Bah c'est foutu.
Bah voilà, tu ne fais rien, c'est tout.
Tu ne finis pas le jeu.
C'est ça, vraiment, tu ne peux pas finir le jeu. Dans ces sous-sols, donc, on découvrira les véritables horreurs de Silent Hill, qui sont vraiment, vraiment affreuses.
Youf.
Je vous conseille d'y jouer, mais attention.
Âme sensible, s'abstenir hein, pendant cette émission, on peut le dire.
Parce que même si le jeu est sorti en 99, les monstres font quand même vraiment très peur.
Ah ouais ?
Ah oui, franchement, suffit juste éteins la lumière, mets-toi sur ta télé avec un petit plaid et tu vas avoir très peur. Tu ne te sentiras pas, plus jamais seul.
Ah bah, tu m'étonnes.
Parlons maintenant de deux autres monuments des jeux d'horreur assez similaires entre eux. J'ai nommé Alone in the Dark, premier du nom.
Ou alors Seul dans le noir, hein, en français littéral.
Merci.
Je t'en prie.
Tu vas avoir plus de mal à traduire l'autre.
Ah non, zut.
Ainsi que Resident Evil, premier du nom aussi.
La résidence méchante. C'est une EHPAD.
Le résident méchant.
Mais pas de...
Très bien, commençons donc par Alone in the Dark.
Oh,
il est sorti en 1992. Autrement dit, il est vraiment pas très beau. Il est en 3D. En fait, c'est un mélange de 3D et de 2D.
Oh.
Sauf que c'était assez compliqué pour l'époque.
Ça pourrait être intéressant, mais du coup, c'est un peu mal utilisé, non?
C'est pas que c'est mal utilisé, c'est que c'était clairement pas maîtrisé. Mais l'intention est bonne, du coup, on lui pardonne.
On a fait un jeu d'horreur, regardez.
C'est ça. Dans ce jeu, donc, on contrôle au choix Edward Carnby.
Ouf.
Un petit accent.
Incroyable.
Ou Emily Hartwood. Coincé dans un manoir, donc. Dans ce jeu, le combat joue seulement un rôle partiel.
Oh.
C'est pour ça que dans les survival horror, dans la définition, il y a vraiment le mot combat.
Jeu de combat, ouais.
Mais
est-ce qu'on peut vraiment le situer dans un survival horror ?
Oui, totalement, parce que bah, il faut survivre dans l'horreur, littéralement.
Hein, littéralement encore.
Alors, du coup, oui, le combat joue seulement un rôle partiel parce que la plupart des monstres sont détruits ou contournés en résolvant des énigmes qui permettent donc de sortir de ce fameux manoir.
Logique.
Je vais pas en dire plus parce que sinon ça ruine tout le plaisir de jeu.
Ouais, ouais.
Ah, mon préféré.
Ah,
Resident Evil.
Un monument.
C'est un monument.
Totalement.
Ces caméras fixes mythiques. Surtout cette histoire abracadabrante. Parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais Silent Hill, c'est 11 jeux. Plus des nouvelles, des pièces de théâtre. Il y a vraiment.
Et des films, hein.
Il y a des aussi. Films. Oui, mais les films ne reprennent pas du tout les jeux.
Non, mais du coup.
Les films, c'est vraiment un monde à
juste
part.
Juste le nom.
C'est ça. Donc, je disais donc, Resident Evil, c'est 11 jeux, dont le 12e est attendu en 2021. Ça promet. Alors, après une jolie scène d'introduction filmée avec de vrais acteurs.
Oh, qui est le quand même, budget.
Franchement, c'est beau, hein. Faut pas.
Pas mal.
Alors, de vrais acteurs se faisant poursuivre par des chiens zombies étranges, les protagonistes, au nombre de 3, se réfugient dans un manoir lugubre. D'ailleurs, petit easter egg, qui signifie littéralement
« œuf de Pâques ».
En général, un petit détail qu'on remarque pas toujours et qui apporte pas toujours quelque chose à l'histoire, vraiment. Celui-là, il apporte rien à l'histoire, mais plus à l'immersion. Dans ce cas-là, si on tente d'ouvrir la porte d'entrée, les chiens nous attaquent.
Oh,
ce qui est vraiment très sympathique.
Bah, enfin, évidemment, voilà. Ils veulent nous faire un câlin, on peut le dire.
Non, non, ils t'attaquent et ils te meurent un petit peu.
Yes.
Ils te mordent un petit peu l'épaule et puis tu...
Ah, vas-y, continue ton aventure maintenant.
Ouais, c'est ça, tu ne
Il faut pas aller par là, d'accord.
Alors, selon le personnage choisi en début de jeu, Chris Redfield ou Gilles Valentine, j'ai pas d'accent, c'est juste marrant.
Gilles.
Vous vivrez la même histoire, mais avec deux points de vue différents. Mécanique assez récurrente dans la série. C'est souvent que plus tard, on va avoir, rien que dans le 2, il y a deux campagnes différentes qui sont en fait à peu près les mêmes en général.
C'est juste le personnage qui change.
C'est ça. Alors, je disais donc qu'il y a plusieurs personnages. Donc dans tous les cas, il faudra explorer. T'as pas le choix, de toute façon, t'es coincé dans un manoir. Tu explores, quoi. Tu peux pas sortir vu qu'il y a les chiens. Voilà. Le premier zombie est accompagné d'une cinématique qui est terrifiante. Il faut qu'on en discute parce qu'elle est vraiment infâme.
Ah ouais ?
Ah oui, le zombie se relève et tourne la tête lentement au ralenti. Ce qui est vraiment pas très drôle.
Ça pourrait être une scène d'amour au ralenti comme ça, mais ça l'est pas du tout. Hein.
Alors, suite à cela, vous perdez vos coéquipiers. La solitude,
yes.
Encore une fois. Après plusieurs péripéties, énigmes et cinématiques de portes par milliers... On a mis plein de trucs, mais en fait, ce qui est compliqué avec Silent Hill,
c'est qu'on peut pas vraiment résumer.
Plein de détails.
Resident Evil.
C'est super compliqué. Resident Evil.
Ouais, t'as dit Silent Hill.
Mince.
Nos problèmes.
Alors, vous découvrez que Umbrella, une compagnie pharmaceutique, a développé un virus appelé Virus T.
Oh,
yes. Qui crée les zombies. Parce que c'est pas marrant. C'est
sympa.
Vous vous rendez compte qu'il y a aussi un traître dans votre équipe. Qui n'est autre que votre chef.
C'est une équipe de loups-garous.
Se nomme Wesker.
Où est ce cœur ?
Le gramme blond avec des lunettes noires.
Oh, c'est étonnant que ce soit le méchant de dire.
Vous arrivez enfin à fuir ce manoir de l'horreur en hélicoptère. Et voilà pour ce qui en est de survival horror qui ont marqué un tournant pour le genre. Parce que maintenant, c'est vraiment... Il y a beaucoup de mécaniques qui ont été prises de Silent Hill, de Resident Evil.
Et bah, même dans les films d'horreur encore actuels.
C'est vrai, il y a beaucoup de
trucs
qui ont été pris aussi. Si vous le souhaitez, il est très facile de trouver des informations sur tous ces jeux, sur le
même
net.
Même d'y jouer, d'ailleurs.
Certains, oui. Alone in the Dark, il est ce qu'on appelle un abandonware. C'est-à-dire que les développeurs ont abandonné les droits.
Du coup, on peut y jouer n'importe quand.
Du coup, il est très facile à trouver totalement gratuitement, légalement. qui est vraiment génial pour y jouer.
Bah, c'est super sympa.
Très bien. Alors maintenant, nous allons écouter une petite musique.
Et ensuite, on pourra reparler de ces jeux.
Ensuite, on parlera des...
des adaptations des que adaptations. Ces jeux ont eues en cinéma.
Exactement, j'avais oublié ça. Très bien. Alors, je vous laisse avec 1980, Horror Film 2 par Wallows.
De retour pour cette...
Effectivement de retour.
C'est vrai, nous sommes là. Et ça va être chouette.
Parce qu'on va parler des adaptations de jeux vidéo en film et de films en jeux vidéo.
Par quoi on commence ?
Ben, je t'en prie, commence.
On va commencer par Alone in the Dark, que tu as évoqué juste avant.
Yes. Trop bien.
Toujours l'horreur. Hein.
On est toujours génial, surtout que j'aime pas le film Alone in the Dark.
Le film...
En termes d'adaptation,
il est pas fou en d'après les fans.
Beaucoup mieux.
On a fait beaucoup mieux, c'est vrai. En fait, les
ouais.
Ouais, les fans ils sont pas forcément d'accord sur cette adaptation. Ils sont plus de la genre bah c'est bien mais sans plus quoi. Ça suit pas vraiment le résultat.
Bah c'est ça, ça suit pas vraiment ce qui se passe dans les jeux. Du coup c'est compliqué de parler de véritable bonne adaptation parce que vraiment on a pas grand chose des jeux.
Ouais ça reprend pas grand chose et du coup c'est un peu bête finalement alors qu'il y avait peut-être matière à faire.
Franchement oui, il y a
le mélange de 2D, 3D, on peut le récupérer et peut-être faire un truc agréable
on
avec.
On peut peut-être faire un truc.
Donc c'est un film qui est sorti en 2006, ce qui est bien après le...
Le premier jeu est sorti en 92, mais
92,
après,
ouais.
Ils ont continué à sortir des suites.
Il y a eu des suites
Oui, il y en a eu, comme Resident Evil et Silent Hill.
Comme tous les jeux qu'on venait d'évoquer, trop de suites.
Non, il y a des jeux qui n'ont pas eu de suite, d'accord.
Ouais, comme lequel
Ouais, bah là, j'ai pas d'exemple, genre, mais...
Ouais, c'est ça.
Non, mais ok.
Donc, donc on a parlé de Alone in the Dark. Peut-être qu'on pourrait enchaîner avec Silent Hill.
Mais je t'en prie.
Qui est un mélange de... Silent Hill.
L'adaptation de Silent Hill, elle
te tient dans ton cœur.
Franchement, j'aime beaucoup Silent Hill déjà. Et vraiment, ce film m'a donné envie de jouer au jeu. Parce que j'ai regardé le film avant de jouer au jeu.
C'est assez fidèle au jeu, hein, d'après ce qui se passe dedans. On y retrouve toujours les personnages, donc comme tu disais.
Il y a juste un problème, mais c'est absolument pas un problème.
Il y a un changement, c'est pas le même point de vue, c'est ça ?
C'est ça. En fait, dans le jeu, on contrôle Harry, c'est le père de Cheryl, donc, qui va à Silent Hill pour essayer de comprendre ce qui se passe avec sa fille. Sauf que dans le film, c'est sa mère, dont j'ai totalement oublié le nom. Très professionnelle.
On peut l'appeler Géraldine. Géraldine, sa mère, donc.
Qui est jouée par. Je sais que c'est Rose da Silva.
Oh !
Qui joue son rôle. C'est tout ce que je sais. Mais ça change vraiment pas grand chose à l'histoire. C'est juste pour faire quelques parallèles avec ce qui se passe dans la ville.
Ouais.
Parce qu'il y a quelque chose vraiment avec le lien parental entre la mère et l'enfant et pas
le
père.
C'est montré cette fois plutôt l'inverse.
Oui, c'est ça, en fait. C'est parce qu'il y a vraiment... Il y a des personnages qui sont presque le parallèle, du coup, de la mère et sa fille, et Cheryl. Et donc, ça fait vraiment un parallèle qui est très intéressant.
D'ailleurs, Sean Bean, qui n'est pas mort dans ce film, rappelons-le, alors qu'il est mort dans plein d'autres films.
Parce que du coup, il joue
Harry, le père, ouais.
Qui donc reste chez lui, pour le coup.
Il reste chez lui, tranquille.
Non, il fait aussi des petites recherches.
Il fait des recherches de son côté aussi.
Mon enfant,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait des cauchemars?
C'est ça.
J'aimerais comprendre.
Et il finit par comprendre.
C'est vrai.
Mais on va pas dire qu'il comprend.
On pourra pas le dire. Il y a des plans intéressants, et même s'ils sont, d'après les fans, assez courts et assez longs dans le film, et qui rappellent un peu la caméra un peu deg des premiers jeux.
Elle est pas deg,
elle est très mal agencée.
Elle est un petit peu pompette parfois. Parfois, on rentre dans une salle où juste on change d'angle dans une ruelle, et vraiment la caméra vacille de gauche à droite. On n'a pas envie de rester là, quoi.
Tu fais, oh là, il y a un problème peut-être.
Oui, c'est ça, tu n'as pas envie de rester.
Bah, heureusement qu'ils font pas ça dans le film, sinon ce serait vraiment.
Ah oui, on serait vraiment.
Dans quelque chose de pas très agréable à regarder.
Ah oui, non, ce serait pas grave du tout même.
Mais peut-être qu'on pourrait enchaîner ensuite sur Resident Evil.
Oui, je t'en prie.
Qui a eu une très. Ah, rappelons que Silent Hill a eu une suite cinématographique qui ne reprend pas le 2, qui reprend tout de suite le 3. Si
en fait,
j'ai bien compris.
C'est parce que, en gros. Je fais mon expert.
Vas-y, fais ton expert.
En fait, le 1 n'est pas connecté avec le 2. Oh, même si le 2 se passe toujours à Silent Hill, le Silent Hill qu'on connaît dans le 1.
Mais évidemment.
Mais en fait, il reprend le 3 où nous jouons Cheryl, qui est donc.
Plus âgé, non ?
Oui, qui est plus âgé.
Oh, d'accord.
Et qui retourne à Silent Hill.
Encore ?
Ah oui.
Elle en a pas marre.
Oh, bah, elle va y retourner plein de fois.
Oh, bah super, tiens. Donc ouais, on peut noter que ça reprend plutôt le 3 que le 2. Le 2. Donc Resident Evil et sa très longue série de films qui n'a rien à voir avec le jeu. C'est vrai ?
Je sais simplement que ça n'a vraiment rien à voir avec le jeu.
J'en ai vu quelques-uns et vraiment ça n'a rien à voir avec le jeu et l'univers. Enfin, c'est l'univers, oui, mais les personnages, vraiment pas du tout.
Je sais juste qu'il y a une référence dans Resident Evil 4. Qui est sur Wii notamment.
Oui.
Vraiment génial. En fait, il y a une scène de 2 secondes et demie où Léon esquive des lasers qui est une scène qui apparemment se retrouve dans un des films.
J'en ai aucune souvenance.
Ok, d'accord.
Mon esprit a fait au revoir. cette scène. On peut rappeler aussi que normalement les producteurs avaient pensé à Romero pour le film, mais qu'ils ont fait bah bof.
Vraiment les producteurs japonais ont dit ah non mais c'est pas ouf en fait, du coup on va faire autre chose.
Regardez, il a déjà fait des films qui s'appellent Zombies et qui a des zombies dedans, c'est intéressant, non? Bah non finalement, pas lui. Ouais.
Effectivement, je te vois.
Merci beaucoup. Notes. Oui, oui, mais ça va, c'est bien.
Ça va.
Et donc ça reprend bien les univers des zombies et l'univers apocalyptique qui était évoqué dans l'univers tout entier.
Finalement. C'est probable.
C'est probable. Peut-être
je
bien.
N'en ai aucune idée.
Peut-être bien. Peut-être qu'on pourrait parler aussi de Slender, qui a eu une adaptation vraiment pas bonne.
C'est vraiment anecdotique. Parce
c'est
que
très anecdotique.
L'adaptation, elle a vraiment pas fait beaucoup de bruit.
Elle a pas du tout marché, l'adaptation.
En même temps, c'était compliqué.
On peut le raccorder, c'était dur. Le concept était intéressant. C'est, peut-être on devrait rappeler ce que c'est Slender.
Ah oui, c'est vrai. Slenderman, je t'en prie.
Oh, bah, Slenderman, c'est une légende urbaine. Je crois que c'est un homme très grand en costume cravate, sans visage, qui ramène des enfants chez lui et qui les mange finalement.
Mais il a pas de maison, il a une forêt.
Ouais, bah c'est sa maison la forêt finalement. Comme les écureuils.
C'est un écureuil.
Slender, c'est un bel écureuil.
Voilà, conclusion, Slenderman est un écureuil. Mais enfin, c'est.
Du coup, ça pourrait être intéressant en film, mais je pense qu'ils l'ont mal utilisé.
Je pense qu'ils ont voulu se dépêcher de faire un film.
Peut-être,
juste,
oui.
Vraiment, on surfe sur la vague de la popularité.
Et puis ensuite, oust, c'est bon, c'est fait.
C'est exactement ça.
Oust, oust.
Allez, zou, zou.
Donc, on va enchaîner sur une musique, peut-être.
Ah ben, je suis d'accord.
Je te laisse la présenter, la musique.
Ah, c'est moi qui la présente, oui, la musique.
Pour être en rapport avec Silent Hill.
Ah oui, c'est une musique qui vient de Silent Hill.
Qui vient de Silent Hill.
Film Silent Hill, qui s'appelle Alessa's Harmony. Donc, l'harmonie d'Alessa, avec la traduction.
Donc, on vous laisse l'écouter.
On vous laisse avec.
Et on vous reprend après.
Parlez-vous, cours de mime!
On va enchaîner tout de suite avec une chronique ciné.
Oui.
Amis du cinéma, bonsoir. Donc, pour poursuivre sur le thème de la soirée Halloween, évidemment, on va prolonger le plaisir horrifique avec la comédie d'horreur.
Le plaisir.
Et le cinéma d'horreur, évidemment. Qu'est-ce que c'est, les films d'horreur? On se pose toutes les questions.
Qu'est-ce que c'est, les films d'horreur?
Oh, merci de poser la question.
Les films d'horreur, c'est les films qui font peur.
Bien joué. C'est des films qui sont là pour se faire peur, oui. Pour s'angoisser, même se répulser intérieurement.
Ah oui, c'est vraiment...
Est-ce que tu as certains films qui te viennent à l'idée quand on dit répulsion?
Tu me répulses.
Ah non.
Non, j'ai pas de films qui me viennent à l'idée.
Moi non plus. Zut.
super. Ah, il y a peut-être Saw.
Saw ça peut répulser oui. les gens, oui.
Ouais. Ah oui, en fait, j'y pense et oui.
Certains pièges sont vraiment bof, hein. C'est un cinéma qu'il ne faut pas confondre avec le cinéma fantastique, hein, parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Même si les deux peuvent se mélanger.
Ça peut, on peut faire un petit mélange.
Comme dans Sucker Punch.
Ok, j'ai pas vu ce film.
Un film où des gens sont enfermés dans des asiles et puis ils rêvent de trucs.
Ah d'accord,
voilà.
Bah, c'est sympa.
C'est sympa, c'est sympa touche. Si vous êtes adepte de films d'horreur, vous connaîtrez peut-être des classiques comme L'Exorciste ou même Shining.
Je suis d'accord.
Tu es d'accord ?
Je suis d'accord.
Incroyable, super.
J'ai pas vu Shining parce que c'est trop long, mais je suis d'accord quand même.
Bah, dans les films d'horreur, parfois, il y a des côtés un petit peu comiques, comme dans Ça 2. Où ils sont dans un manège, un palais de glace, c'est ça ? C'est bien le
oui,
nom,
oui. C'est ça, c'est un palais des glaces.
Un palais des glaces. Et il y a Pennywise, donc Gripsou en français.
Gripsou.
Littéralement Gripsou. Qui se tape la tête contre la vitre. Et non, on se tape des barres, comme on dit familièrement.
Comme on dit dans le jargon.
Dans le jargon.
Que disent les jeunes ?
Les jeunes disent ça, moi je ne sais pas. Et en fait, ça lui fait faire des grimaces, en fait. Et normalement, ça devrait nous faire très très peur. Et ça nous fait rire.
Personnellement, ça nous fait rire.
Ça nous fait rire. Peut-être que c'est terrifiant pour
fait,
d'autres
ça
personnes.
Fait peur.
Ouais, ça se trouve.
On est juste fous.
On peut. Ouais, il a quand même un peu l'air bête
vrai,
en
non,
se tapant
vrai.
La tête comme
c'est
ça.
C'est vrai qu'il a l'air très bête.
Incroyable. On peut noter qu'il y a des films qui sont comiques intentionnellement, comme Shaun of the Dead.
Ah oui, c'est vrai.
Par
oui.
Edgar Wright.
Oh là là.
Wright. En 2004, t'as vu ça. C'est l'histoire de Sean, donc, le personnage éponyme, incroyable, qui doit combattre des zombies avec son copain Ned.
Son copain.
Son copain Ed, le meilleur de tous. Voilà. Mais en fait, c'est des films intéressants parce que ça nous montre un petit peu d'autres codes du cinéma d'horreur, mais rigolo. Le cinéma d'horreur rigolo.
Le cinéma d'horreur rigolo, c'est tout un genre.
Après, il y a des films qui utilisent les codes des films d'horreur, mais qui pour faire des parodies. On pense tous à Scary Movie, évidemment.
Scary Movie.
Le célèbre Waza.
Qui est vraiment très drôle.
Oui, on va pas le reproduire ici parce
j'aime
que...
beaucoup. Ah non.
Waza.
On va le faire. Non, parce que c'est vrai qu'il est. Franchement, il est très cool. Parce
bah, il y en a vraiment... plein en plus. Du coup, ça prend un petit peu tous les films
c'est
d'horreur
ça,
qu'on aime bien.
Tu...
Et puis...
Quand tu grandis et que tu vois plus de films d'horreur, tu te rends
tu
compte.
Tu comptes plein de références.
Une référence, ça.
Mais je comprends tout ce qui se passe en fait. Ouais, ça reprend des films comme Saw ou même The Ring.
Il y a Scream aussi.
Scream aussi qui a repris.
C'est un slasher, mais c'est pas grave.
Putain, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que Blair Witch est repris dans un Scary Movie ?
Oui.
C'est
oui, Blair Witch est repris. Oui, puisque.
Je me posais la question parce que.
La,
ça m'est venu, mais...
la journaliste qui est vraiment insupportable.
Dans le combien ? Est-ce que tu te souviens ?
C'est dans le premier.
Dans le premier ?
Ah oui, c'est dans le premier, puisqu'elle est accompagnée de son caméraman qui est. Vraiment assez neuneux et qui est très amoureux d'elle. Et elle finit par tomber dans un espèce de ravin dans une forêt. Enfin, la cohérence a été mangée dans cette scène, je crois.
Je pense qu'ils font plein de références que nous on peut pas comprendre parce qu'on n'a pas assez de culture
c'est
encore.
Ça. Mais en fait, du coup, on voit un gros plan vraiment exactement comme dans Blair Witch, du coup.
Ouais.
Et on la voit à la caméra dire. Elle dit pas adieu du coup, elle est au revoir.
À
ah non,
plus.
Non, elle a ah, j'ai perdu ma chaussure.
Quoi ?
Et puis après, il y a vraiment un petit cut et on la voit en train de pleurer et c'est vraiment dégoûtant.
You.
Parce qu'elle pleure, elle a de la morve. Alors, c'est vraiment un humour
délicat,
très raffiné.
Délicat en tout cas, hein, vraiment. Après, on peut compter aussi Beetlejuice hein, dans cette catégorie de comédie horrifique.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que le beau démon interprété par Michael Keaton, c'est un personnage comique dans une situation qui ne l'est pas forcément, finalement.
Ah non, c'est pas du tout censé être comique.
C'est pas
mais...
du tout censé être comique, mais ça nous fait rire. Hein. C'est un personnage intéressant et puis complètement burlesque,
oui,
finalement.
Totalement burlesque.
Et si vous aimez les vampires et l'intimité et la comédie, on vous propose
Les vampires
en toute intimité. Comme son nom l'indique, c'est un film fait par Taika Waititi en 2014. Taika Waititi qui a réalisé Jojo Rabbit aussi, un très
qui
bon film.
Qui a aussi réalisé Thor Ragnarok.
Thor Ragnarok. Thor 3.
Thor 3. 3.
Qui est très intéressant, avec une VF vraiment aux petits oignons.
Ah oui, c'était.
Une VF avec Alexandre Astier, Fred Testo et Bruno Laver. Vraiment. C'est l'histoire de quatre vampires qui sont en colocation à Limoges en 2015.
À Limoges.
À Limoges, vraiment. En fait, c'est filmé comme un reportage, du coup, c'est...
Oui, et puis il y a un truc qui est inhérent à la VF, qui n'y a pas du tout dans la VO même, parce que ça ne se pose pas. Mais en fait, c'est vraiment un doublage qui est volontairement pas
qui a l'air
synchronisé
très mauvais.
Sur les
lèvres. Ça a l'air très mauvais, mais en fait, c'est si bien fait.
Il est tellement bien joué qu'on a l'impression qu'il est mauvais. C'est vraiment...
En plus, ça reprend des noms très français, hein, Gilles.
Oui, c'est J-C. Ça. Et comme Limoges, c'est absolument pas Limoges, normalement.
Bah non, pas du tout. Ça reprend cette petite VF qu'on aime beaucoup. On va peut-être en passer un tout petit extra de cette VF. Un petit plaisir.
Minuscule, hein.
Un tout plaisir.
Va chercher la balle. Non, n'y va pas, y a pas de balle.
Voilà.
Ça vous fait bien rire, dis donc.
On adore.
Peut-être qu'on pourrait conclure.
Ah, c'est vrai qu'il faut conclure
cette petite émission.
Il faut rentrer chez soi.
Il faut rentrer à la maison. S'il vous plaît, rentrez chez vous. C'est important.
C'est important.
Pour ce moment. Horrible cette phrase. Eh bien, nous allons conclure, donc. Je vais à la conclusion.
Oh oui, je t'aime, Brie, conclue.
Merci, bien, je conclue.
Pour
clôturer cette émission... L'horreur et la comédie horrifique. En fait, ça a toujours su se renouveler dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel média dans lequel elle est impliquée. Type les courts-métrages.
C'est important quand même.
Les films, les musiques même. C'est très important, c'est vrai.
Ah oui, sinon on s'ennuierait très vite quoi.
On s'ennuie, ouais. Donc, ça garde la même recette, hein, et ça la réutilise tout le temps. Jumpscare, tout ça.
C'est ça, mais c'est. Jumpscare, c'est un élément qui fait peur, qui passe souvent...
Qui passe très très près de la caméra,
souvent. Ça passe très vite devant la caméra, et il y a souvent un bruit aussi qui...
On pourra peut-être rappeler l'exorciste avec le visage très très près, si vous vous en souvenez.
C'est exactement fait, c'est vraiment juste fait pour vous faire sursauter.
Voilà, et si en plus vous sursautez, bah vous avez très peur, et en plus vous êtes tout de suite dans l'ambiance, quoi, du coup.
On est tout de suite plus tendu.
Ça implique des nouveaux codes aussi, comme l'implication de nouvelles religions, enfin pas de nouvelles religions du coup, comme on a vu, tu te souviens, le film qui parlait de la religion juive, qui changeait de la relation.
Ouais, The Vigil.
Qui changeait de la relation toujours mise en avant du christianisme.
C'est ça, ça nous...
Et
c'est
du coup,
ça donne une approche...
Ça donne une nouvelle approche parce qu'on connaît pas, du coup on sait pas trop à quoi s'attendre, parce qu'avec l'exorciste ou quoi, on sait s'attendre un petit peu aux démons, les crucifix, tout ça.
Du coup pas au moment où,
pas au moment où l'exorciste est sorti,
c'est vrai que c'est
un peu comme les dents de la mer. Ils ont dit, regardez, on a un requin, il est c'est très grand, ça. Il fait peur.
C'est juste que bah, forcément, avant l'exorciste, ça avait pas vraiment cartonné à ce point-là. Mais il y avait le... Maintenant, c'est surexploité. La chrétienté, c'est
Oui, c'est ça. C'est toujours mis en avant un petit peu partout dans chaque
c'est,
film
entre guillemets,
d'horreur.
Le plus facile pour faire un film d'horreur.
Voilà. Des prêtres, la religion.
Allez, hop. Tu mixes tout ça.
Un exorcisme, tout ça. Il y en a plein, une pelletée de films comme ça. Mais du coup, c'est une nouvelle approche avec The Vigil qu'on n'avait pas forcément déjà vu. Déjà vu, comme disaient les Anglais.
Déjà vu.
Mais c'est super intéressant de faire cette approche. Et c'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles choses, toujours, continuellement. Eh bien, on espère que cela continuera et que cette émission vous a plu. Maintenant, on vous laisse avec Night Call de Kavinsky, qui vient de la bande-son de Drive.
Que vous connaissez certainement tous.
Et on dit au revoir maintenant. Alors,
au revoir maintenant.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. C'était bien.
Oui, c'était sympa.
Have no fear. Boy, but you're still the same.